Frères et sœurs, c'est de l'Éternel que nous recevons l'espérance dans ce monde troublé. C'est de lui que nous recevons le secours au milieu des épreuves auxquelles nous sommes affrontés, l'amour au cœur des divisions. Il est le Dieu qui aime, le Dieu qui nous aime au point de nous donner son Fils pour nous aider à vivre, pour nous aider à faire vivre celles et ceux que nous croisons. Et c'est aujourd'hui un temps pour nous mettre à l'écoute de cet amour, pour nous mettre en présence de cet amour, un temps pour vivre cet amour. Je vous invite à rendre grâce à Dieu avec le premier répond indiqué dans le livret jaune figurant au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Frères et sœurs, nous prolongeons cette méditation du psaume 8 par le chant du psaume 67. Dans son harmonisation genevoise, donc le numéro 67b dans notre recueil de chants, et nous chanterons les deux strophes de ce psaume 67. Prenons place. Encore avec les mots d'un psalmiste, quelques versets pour entendre les bienfaits de l'écoute de la volonté de Dieu. Heureux, dit le psalmiste, heureux celui qui est en train de méditer la loi. Heureux parce que sa joie est grande, nuit et jour, de méditer la loi de l'Éternel. Il ne suit pas le conseil des rebelles, il ne fait pas route avec l'infidèle, il ne vient pas s'asseoir chez les moqueurs, mais devant l'Éternel, simple est son cœur. Éternel notre Dieu, nous avons conscience de la distance qui nous sépare de ce que tu nous invites à vivre et de ce qu'est effectivement notre vie. Alors, pour tout ce que nous aurions dû faire et n'avons pas fait, pour tout ce que nous aurions dû penser et n'avons pas pensé, pour tout ce que nous aurions dû dire et n'avons pas dit, nous te demandons pardon. Amen. Rappelons-nous ces paroles de l'apôtre. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est également plus grand que notre intelligence. Écoutons cette autre parole. Elle est certainement digne de confiance et elle mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs dont je suis le premier. Voyez-vous, frères et sœurs, à chacun de nous, cette parole redit explicitement le pardon de Dieu, un pardon qui ne dépend ni de notre bonne volonté, ni de notre humeur du moment. Une parole de pardon qui nous ouvre explicitement un chemin de liberté, un chemin de responsabilité, un chemin bordé par la paix du Christ. Chantons à Dieu notre reconnaissance. C'est parce que nous sommes aimés au point d'être pardonnés que naît en nous cette confiance, ce que l'on appelle la foi. Une confiance, une foi que l'on peut exprimer en ces termes avec cette collection de citations bibliques rassemblés autrefois par le pasteur Bertrand. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, que je vous lis les versets 18 à 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 4. C'est le début du ministère de Jésus de Nazareth. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On l'écoutait jusqu'en Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Éternel, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous au creuset de ta vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, je vous invite à ouvrir la page comportant le numéro 407 pour que nous chantions ce cantique « Ô croyons que Dieu nous donne », les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 407. Dieu notre Père, dont la parole s'est inscrite dans notre chair en Jésus-Christ, toi dont la parole illumine le monde et son histoire, afin que l'homme puisse non seulement croire, mais aussi répondre à ton appel, répondre de ses actes. Ouvre mon oreille à cette voix qui retentit dans le désert. Aide-nous à garder notre cœur ouvert pour accueillir ton évangile. Chers frères et sœurs, croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet. J'aimerais commencer par m'interroger sérieusement sur la réalité de cette phrase, avec deux autres versets bibliques d'ailleurs, deux versets particulièrement connus, le début du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et puis aussi un autre verset dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jésus qui dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bon, si c'est moi qui lis ce verset, d'accord, je dirais, c'est plausible. Mais si c'est un habitant de Madagascar qui lit cela, ou un Parisien de 55 ans qui, après avoir été licencié pour motif économique, après avoir passé de longs mois à rechercher en vain un nouveau travail, alors qu'il a encore deux enfants à charge et qu'il n'a pas fini de payer les traites pour le remboursement de son prêt immobilier, je pense que ce verset reste un peu plus en travers de la gorge. L'évangile de Jean, je vous laisse ma paix. Si c'est moi qui lis, soit, tout va bien. Mais si c'est un Syrien qui lit ce verset. La question c'est, est-ce que l'évangile serait réservé à une frange de la population? Est-ce que l'évangile serait vrai en certains lieux, mais pas de manière universelle. Ces deux versets sont en contradiction radicale avec tant de situations et en harmonie avec si peu de situations. Il y a tant de personnes dans le monde qui manquent de tout et tant de personnes qui ne savent même pas ce qu'est la paix. Comment fonctionne l'évangile dans ce cas-là ? Parce que, bien évidemment, il ne faudrait pas faire une lecture et une interprétation de ces versets qui seraient réductrices, au point que ne manquer de rien, ce ne serait simplement que ne pas manquer d'une bonne parole. Ou la paix du Christ, ce serait simplement être en paix avec Dieu ou avec soi-même. Ne manquer de rien, la paix ne saurait être réduite à sa part congrue. La nourriture et la sécurité sont des besoins élémentaires, vitaux, dont la vie spirituelle doit s'intéresser sérieusement, à moins d'être une sorte de légende urbaine inventée par quelques-uns qui ne manquaient de rien mais s'ennuyaient copieusement et ont décidé de s'occuper. Ce qui est en jeu dans ces deux constats, c'est la providence divine. Comment le divin pourvoit-il à nos besoins? Comment ces belles paroles religieuses deviennent-elles réelles? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vous emmène à la rencontre de Jésus de Nazareth, dont la fonction de Messie consiste justement à incarner l'espérance de Dieu. Donc, si nous voulons voir comment fonctionne la providence divine, mettons-nous à l'école de celui qui est censé la réaliser. Justement, dans le passage que j'ai lu ce matin, nous avons le récit de Jésus qui proclame la bonne nouvelle, qui guérit des infirmités, des maladies, tant et si bien que ce qu'il dit est écouté bien au-delà de son cercle privilégié, jusqu'en Syrie, dit le texte. La question pour nous ce matin n'est pas d'approfondir ce que signifient ces guérisons dont nous avons parlé par ailleurs, mais de comprendre comment le Christ parvient à faire du bien aux personnes croisées. Comment il réussit à concrétiser la bonne nouvelle? Comment cette bonne nouvelle parvient à ne pas rester simplement un gentil discours dans des cénacles autorisés? Alors pour cela, je crois qu'il convient de remonter d'un cran dans le texte et d'obtenir quelques résultats intéressants en nous intéressant plus spécifiquement à l'appel de ceux qui seront les disciples de Jésus. Ces vocations, ces quatre vocations, vont nous permettre de mettre à jour le processus par lequel Jésus réalise la bonne nouvelle. Un processus en quatre étapes que le Christ met en œuvre et qui constitue l'art de Jésus qui se révèle comme un faiseur de situations. Et c'est cela que j'aimerais retenir de ce passage. Jésus, un modèle de faiseur de situation. La première étape, c'est un regard. Celui que Jésus pose sur Pierre, sur André, sur Jacques, sur Jean. Le narrateur, par deux fois, dit que Jésus voit. Il voit ces couples de frères qu'il va appeler. Ce regard est absolument décisif, c'est le point de départ. Il témoigne que ces individus ne sont pas transparents aux yeux de Jésus, qu'ils ne sont pas insignifiants. Vous savez, des pêcheurs sur le lac de Galilée, c'est un peu comme des protestants à l'Assemblée du désert le premier dimanche de septembre. C'est une sorte de masse informe. Sauf pour celui qui a le regard suffisamment exercé pour reconnaître en chacun un être singulier. Et le huguenot depuis toujours reconnaîtra non seulement un être particulier, mais en plus un cousin. Eh bien ici, c'est le cas de Jésus. C'est le cas de Jésus qui distingue dans la masse des pêcheurs ces deux couples de frères qu'il appelle. Il a posé un regard favorable sur eux, un peu à la manière de ce que nous disons à l'occasion des baptêmes, l'Éternel qui porte un regard bienveillant sur la personne qui est baptisée. Et voir quelqu'un, c'est lui donner une existence. C'est le faire venir au monde, au moins à notre monde. Il commence au moins à exister pour nous, ce qui est le premier pas d'une existence plus large. N'est-ce pas aussi ce que fait la personne qui encadre le groupe de condamnés qui doivent s'acquitter d'heures de travail d'intérêt général dans le film La part des anges. Parmi ces gens sans importance, parmi ces gens sans apparence, qui n'ont d'autre talent que celui d'enfreindre la loi, l'éducateur voit l'un des délinquants, un peu à la manière de Jésus, qui voit ces hommes près du lac de Tibériade, de la mer de Galilée, et qui lui fait confiance. Il croit en lui. Et il va tellement lui faire confiance qu'il va lui faire découvrir quelque chose, ce qu'il y a peut-être pas de plus important pour lui, mais ce qui compte vraiment dans sa vie, le whisky. Au départ, un regard un peu comme celui de Jésus, un peu comme celui du bon samaritain, un regard qui est mu aussi par le fait qu'on est pris aux entrailles et que l'éducateur ne peut pas laisser ce jeune délinquant à moitié mort en bas de l'escalier. De même que le bon samaritain ne peut pas laisser cette personne à demi-morte sur le chemin qui mène de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Au départ donc, un regard qui fait sortir du lot, du déterminisme, qu'il soit social, religieux, linguistique, génétique. Au départ, un regard qui fait venir au monde. Et à partir de ce moment, commence le processus actif par lequel Jésus est faiseur de situation. Il s'adresse à des individus et il les reconnaît dans ce qu'ils font. Il le fait en jouant sur le mot « pêcheur ». En leur promettant d'en faire des pêcheurs d'hommes, il commence par reconnaître implicitement que dès à présent, ils sont pêcheurs. Il les reconnaît pour ce qu'ils font, il les reconnaît pour ce qu'ils sont. Et cette deuxième étape, c'est celle de la reconnaissance. Voir, puis reconnaître. Et cela, c'est le socle sur lequel tout le reste pourra être édifié. Voilà une chose certaine sur laquelle on va pouvoir construire la suite de l'histoire. Ça signifie que le regard de Jésus est tout le contraire des regards méprisants en forme de « tu es nul, tu n'es pas intéressant, tu ne vaux rien, tu es un moins que rien ». Jésus est vu, Jésus a vu, et il a reconnu en eux des êtres capables de certains accomplissements. Il envisage la mission à venir à partir d'une réalité qu'il nomme et qui devient aussi une réalité pour ceux qui sont concernés. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est au cœur de l'action, lorsqu'on est au cœur de son métier ou au cœur de ses soucis, et qu'il n'y a plus que cela qui occupe notre temps, qu'on n'a que ça dans la tête, eh bien, il n'est pas rare qu'on ne voit plus très bien l'intérêt de ce que l'on fait ou de ce que l'on est. Parfois, il y a même un sentiment d'inutilité qui commence à nous gagner, voire des formes de dépression, comme les burn-out que connaissent la plupart des travailleurs sociaux, qui ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien, qu'on n'avance jamais, qu'on retourne toujours à la case départ. Cette parole de reconnaissance donne de la consistance à ce que sont et à ce que font ces hommes-là auxquels Jésus s'adresse. Et à partir de là, la suite de l'histoire peut être écrite. À partir de là, troisième étape, Jésus tisse des relations. Voir, reconnaître, relier. Nous sommes au cœur de ce processus de faiseur de situation. Jésus crée une situation où les pêcheurs vont être au contact de nouvelles personnes, dans un nouveau contexte, pour une nouvelle mission. Ce que fait Jésus, c'est de reconfigurer leur réel. Il leur ouvre un nouvel horizon. Et les pêcheurs vont donc pouvoir sortir de la reproduction du quotidien et faire à leur tour histoire, devenir acteurs. C'est au directeur de la Clairière, ce centre social fondé par notre paroisse il y a bientôt 101 ans maintenant, Gilles Petitgat, que je dois cette expression « faiseur de situation ». Et Gilles Petitgat l'illustre par un épisode vécu il y a quelques années lorsqu'il était lui-même éducateur spécialisé. Et lorsqu'il a proposé à un jeune vivant de petites combines, une sorte de racaille, il lui a proposé de venir en aide à une personne âgée, de l'aider à déménager dans cette maison de retraite où on lui avait trouvé une place. Et comme le dit Gilles Petitgay, il y a eu une véritable rencontre entre ce jeune et cette dame, pour laquelle il s'est véritablement pris d'affection. Donc il ne s'est pas contenté de faire ce qu'on lui a dit de faire. Il a aussi pris soin d'elle, veillant à ce que la nouvelle installation soit la plus confortable possible pour cette personne. Cette nouvelle configuration, le fait de sortir de ses logiques, le fait de le sortir de son milieu, cette nouvelle configuration lui a donné l'occasion d'envisager la vie avec une nouvelle logique, avec sa logique propre, sans le regard coercitif des relations habituelles qui l'enfermaient inexorablement dans un rôle dont il était prisonnier. Et la finale de cet épisode est tout à fait édifiante. Et elle nous conduira au quatrième point de ce processus. La vieille dame, au moment de dire au revoir à ce jeune, elle lui dit « Ah, si tous les jeunes étaient comme vous, il y aurait moins de problèmes. » Lui qui était un délinquant. Lui qui se considérait comme un moins que rien. Lui qui se considérait comme un incapable. Faire des situations, c'est mettre les personnes en situation de faire quelque chose dans un nouveau contexte. Il s'agit de mettre tous les éléments en relation, les uns avec les autres, à rien de plus. Il n'est pas question de forcer. Jésus ne vient pas prendre ses pécheurs par le col pour les emmener à sa suite. Il est question de proposer, de faire en sorte qu'autre chose que l'horizon bouché soit disponible. La quatrième étape, donc, celle que la dame indique, c'est celle de la transcendance. Ce jeune a été transcendé dans l'image de soi. Il n'était plus le même avant et après. Le jeune homme a tout simplement connu une estime de soi que jusque-là, il ignorait absolument. Sa dignité a été restaurée. Sa dignité a été littéralement transcendée. Il n'est plus le petit délinquant, il n'est plus le paumé. Il est devenu non seulement un alter ego pour quelqu'un qui, jusque-là, ne partageait vraiment pas sa condition, mais mieux que cela. Cette dame en a fait un modèle auquel il était possible de se référer. Les pêcheurs, quant à eux, ne seront plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes, ce qui est bien différent par la nature. C'est une nouvelle étape sur le chemin de leur vie, un nouveau stade. Ce n'est pas l'ascenseur social, mais c'est l'ascenseur existentiel. Leur vie va prendre une nouvelle envergure. Ces pêcheurs vont accéder à ce qui était pour eux jusque-là un état surnaturel de l'être. Comment cela se fait-il? Eh bien, par ce processus vécu en compagnie du Christ qui rend présent ce qui nous préoccupe de manière fondamentale, même si nous n'en sommes pas toujours bien conscients. Je reviens au film « La part des anges ». Ce jeune délinquant est placé face à ses responsabilités parentales par la mère de son enfant qui vient de naître. Elle le met en demeure de s'interroger sur ce qu'est être père. Il est donc placé face à une forme de l'ultime. Et conjointement, il est mis dans une situation de confiance et de succès par son éducateur, qui, l'ayant initié au whisky, en a fait un amateur éclairé, qui sera reconnu par les spécialistes écossais en la matière. Les pêcheurs de Galilée se retrouvent eux aussi face à un univers plus grand que leur univers familier. Ils sont eux aussi placés face à une autre manière d'être pêcheurs. Ils sont hissés à la hauteur d'une nouvelle humanité, non plus simplement pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. Et cela leur pose nécessairement la question, qu'est-ce que l'homme pour que l'on s'en préoccupe. En devenant pêcheurs d'hommes, ils vont aussi avoir accès à cette humanité authentique en ayant profité du processus mis en place par Jésus. Et parce qu'ils ont été au bénéfice de ce processus, ils vont à leur tour pouvoir enclencher un processus pour les personnes qu'ils vont rencontrer. Ils seront à leur tour agents de la providence de Dieu, providence qui ne consiste pas à distribuer avec largesse ce que les uns et les autres rêvent d'avoir, providence qui consiste à créer de nouvelles situations pour sortir des impasses et des répétitions de scénarios mortifères. Pourquoi est-ce que la suite de l'histoire fonctionne? Pourquoi est-ce que Jésus parvient à accomplir ses guérisons? Pourquoi est-ce qu'on l'écoute jusqu'en série? Précisément parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il y a des relais. Et au fond, le Christ, c'est la figure récapitulatrice de tous ces agents de la Providence qui mettent en place ce processus. Néanmoins, méfie, comme on dit à Marseille. Être faiseur de situation est assez précaire. Je veux dire que les films, c'est intéressant. L'évangile, c'est intéressant. Mais ça ne fonctionne pas systématiquement. Et il ne faudrait pas vivre dans l'illusion qu'animé d'une foi splendide, nous arrivions à réaliser de façon automatique les promesses de l'Évangile. On peut rassembler de nombreux éléments favorables sans qu'une situation se débloque. Soit parce que la nouvelle configuration n'est pas suffisamment bien adaptée, soit parce qu'il y a des oppositions qui font obstacle à un dénouement heureux. Certainement, on pourrait imposer la paix en Syrie, comme Rome le fit autrefois. Mais la paix du Christ, ce n'est pas la Pax Romana, qui se fonde sur la force et qui, dans le cas présent, serait aussi une épreuve de force militaire avec la Chine et la Russie. Doit-on pour autant sacrifier les Syriens sur l'autel de notre tranquillité? Pas d'hésitation à avoir, non. Et l'activité diplomatique consiste précisément à reconfigurer le réel, à porter un regard nouveau sur les personnes, sur les situations. Elle consiste à extraire les uns et les autres de leur schéma pour envisager d'autres perspectives. Personne ne veut perdre la face dans un conflit. Personne n'a envie d'être humilié. Et le meilleur moyen de sortir d'un conflit, c'est de transcender l'image que l'on a de soi. Sortir par le haut, comme on dit. Gagnant-gagnant, comme on dit aussi. C'est de permettre d'accéder à un nouveau stade. Et peut-être, finalement, de faire du conflit une crise. Une crise de laquelle peut sortir une nouvelle vérité. Une vérité qui, jusque-là, était simplement une potentialité. C'est ça, transcender. Comme pour les disciples, il faut quitter le Père pour obtenir cela. Abandonner l'image tirée tout droit de la tradition sans interprétation, sans réappropriation, sans adaptation à sa propre situation. N'avons pas ici même, en ce lieu, les moyens de dire à Bachar al-Assad qu'il aurait pu valoir infiniment plus que son père Hafez en se comportant autrement. J'imagine que Kofi Annan lui aura signifié en d'autres termes. Et ce qui est vrai pour lui est aussi vrai pour les autres protagonistes qui manifestement tiennent ferme leur position, ignorant que reconnaître ses fautes et changer n'est pas le signe d'une faiblesse coupable ou honteuse, mais le signe d'une grande force morale. Bien des personnes, bien des associations, l'oratoire notamment, modestement, à sa manière, se sont évertués et s'évertuent encore à changer Madagascar, à rendre cette île autrement plus vivable pour tous. Mais la mécanique divine n'est pas une mécanique impitoyable qui broie tout sur son passage. Elle est souvent contrecarrée. Alors l'Éternel suscite inlassablement de nouveaux pêcheurs d'hommes, pour faire de nouvelles situations, afin d'attirer à nouveau le monde vers un avenir autrement plus réjouissant. Amen. Ce cantique « Prends ma main dans la tienne » numéro 403, dont nous allons chanter les trois premières strophes, est une façon pour nous de répondre à cet appel qui nous est lancé et à être nous-mêmes disciples et acolytes du Christ. Levons-nous pour chanter les trois premières strophes de ce cantique.
Thank you.
Quelques informations à partager. Tout d'abord, notre calendrier. Vous rappelez notre rendez-vous de l'été. Chaque mercredi, de 12h30 à 13h30, une lecture biblique. Mercredi, donc c'est aux 4 rue de l'Oratoire, juste en face, ce sera consacré à un couple, Pierre et Jean. Un même épisode, deux récits. La conférence qui est racontée dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15 et dans l'épître aux Galates au chapitre 2, comment Pierre et Jean se répartissent un peu les rôles d'apôtres. Dimanche prochain, notre culte sera célébré à 10h30, comme c'est le cas depuis un peu plus de 200 ans maintenant. Je ne sais pas s'il faut sortir de ces logiques traditionnelles pour reconfigurer le réel, mais pour l'instant, ça tient bien. Un peu plus tard, au mois de septembre, nous aurons un mois bien fourni. Il y a tout d'abord l'Assemblée du désert, qui sera l'occasion pour nous d'écouter le professeur Laurent Gagnubin, qui prêchera à cette occasion. Il reste encore quelques places pour le week-end que nous organisons. Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, vous contactez Stéphane au secrétariat, le numéro est sur le journal paroissial si vous ne l'avez pas. Deux semaines après, ce seront les journées du patrimoine. C'est l'occasion pour nous de faire découvrir ce temple et nous avons pour cela besoin que des paroissiens se mobilisent pour accueillir, pour tenir le stand de librairie, pour accompagner dans les coins et les recoins les personnes désireuses d'en savoir plus sur ce bâtiment. Et donc c'est auprès d'André Ducrot et d'Isabelle Santesteban que je vous propose de vous dévouer en disant que vous êtes d'accord pour le week-end, pour une journée, pour une demi-journée, pour un créneau de 2 heures. Sachant qu'une formation vous sera dispensée au préalable, vous ne serez pas jeté comme des brebis que l'on mène à l'abattoir. Voilà, donc André et Isabelle, si vous voulez bien rendre ce service ô combien précieux. Je crois que l'an dernier, nous avions accueilli 3500 personnes. Donc vous voyez, nous avons vraiment besoin de vous, de nous. Dimanche prochain, j'ai oublié, nous avons, comme chaque dernier dimanche du mois, un verre fraternel servi dans la sacristie qui, vous le verrez, a un parquet entièrement refait, une table entièrement restaurée. Et nous avons besoin que quelques personnes, là aussi, puissent aider l'équipe autour de Gilles Deveau à organiser ce repas. Donc si 3 ou 4 personnes pouvaient venir en apportant quelques boissons, quelques petites choses à manger, et puis viennent un peu plus tôt pour l'aider à préparer la table, ce serait également très précieux. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il nous faudrait partager? Bien, alors maintenant il nous reste à partager les moyens que nous mettons en place pour aider l'Église à remplir ses missions et être à la hauteur de l'espérance de Dieu. C'est maintenant le moment de l'offrande, là aussi. Sortons de nos schémas, reconfigurons le réel et transcendons le montant que nous avons l'habitude de donner, si possible. Thank you. Frères et sœurs, nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, nous avons besoin de ton aide pour triompher de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnions les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur, d'une même intensité, notre prière. La Bible nous révèle à quel point tu aimes le plus petit d'entre nos frères, les plus affligés, les plus insignifiants, ceux qui sont sans apparence. C'est la raison pour laquelle nous voulons te prier pour les pauvres, pour les affligés, pour les malades, les mourants, mais aussi celles et ceux qui sont prisonniers, victimes de la guerre, victimes de l'injustice, victimes du désordre, ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Aujourd'hui, c'est aussi un jour de commémoration de cette rafle qui eut lieu autrefois aux Veldives. Et nous ne voulons pas nous contenter des heures glorieuses de notre communauté de sauvetage des enfants juifs, des prééducations de nos anciens pasteurs. Nous ne voulons pas non plus raviver la douleur, transposer sur d'autres les fautes d'autrefois. Ce que nous voulons, c'est pouvoir rester veilleur, attentif, ne pas baisser la garde, ne pas manquer de lucidité, être capable encore de voir, être capable encore de reconnaître, être capable encore de relier, être capable encore de transcender. Cela, nous le voulons pour celles et ceux que tu nous confies, celles et ceux qui nous sont chers, celles et ceux aussi que nous avons du mal à aimer. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Notre confiance en toi nous invite à nous préoccuper de plus grand que nous-mêmes, de plus large que nos centres d'intérêt. C'est la raison pour laquelle notre prière s'adresse non seulement à notre pays, mais aussi à toutes les nations, qu'elle concerne les responsables des peuples. Une prière pour que ces responsables procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Une prière pour que nous prenions conscience que cela ne peut pas se faire sans que des agents de la paix, de la justice et de la liberté soient à l'œuvre, sans que nous-mêmes, avec nos moyens, avec nos réseaux, avec nos capacités d'initiative, nous soyons également à l'œuvre. C'est pour cela que nous te demandons de veiller sur ton Église, de veiller sur nous-mêmes, de fortifier notre foi, notre espérance, notre amour pour chacun, en nous libérant de toutes nos compromissions, de nos petits arrangements, en nous donnant la force de chanter tes louanges et de les faire retentir au loin, au-delà même de la Syrie, de chercher partout ta fraternité, de combattre pour la justice. Oui, veuille te servir de nous, Éternel. Nous voici pour accomplir ta volonté. Nous voici pour incarner cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous te disons en nous levant dans la position des ressuscités. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est en voyant, c'est en reconnaissant, c'est en reliant, c'est en transcendant que nous pourrons non seulement incarner, mais transmettre la réalité de cette bénédiction. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.